Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La Bible le déclare. Un jour, Jésus-Christ reviendra. Toutes choses alors deviendront nouvelles.
Beaucoup s'interrogent sur la nature de la nouvelle création et de la vie éternelle. Fort heureusement, la Bible nous apporte quelques réponses à ce sujet. Elles se trouvent essentiellement dans le livre de l'Apocalypse. Ce livre n'est pas toujours facile à comprendre, mais dans la série que nous continuons aujourd'hui, nous allons nous pencher sur quelques textes qui nous éclaireront sur notre espérance éternelle.
Toutefois, auparavant, Sandra va nous lire dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, les versets 9 à 16. Ensuite, Yann et notre invité Robert nous parleront de la signification de ce texte.
Après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'était des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. Alors, l'un des vieillards prit la parole et me demanda : Ces gens vêtus d'une tunique blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ? Je lui répondis : Mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Il reprit : Ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte nuit et jour dans son temple. Et celui qui siège sur le trône les abritera sous sa tente. Ils ne connaîtront plus ni la faim, ni la soif. Ils ne souffriront plus des ardeurs du soleil, ni d'aucune chaleur brûlante. Car l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux comme un berger. Il les conduira vers les sources d'eau vive. Et Dieu lui-même essuiera toutes larmes de leurs yeux.
Merci, et nous souhaitons la bienvenue à Robert qui va nous aider à comprendre le sens de ces paroles. Bonjour Robert.
Bonjour Yann, et bonjour à tous.
Commençons notre discussion en réfléchissant sur les dernières paroles du texte lu. Dieu lui-même essuiera toutes larmes de leurs yeux.
Oui, la dernière fois nous avons appris que la foule immense rassemblée autour de Jésus avait vécu la grande tribulation. La tribulation représente notre âge présent, entaché par le mal et le malheur, un âge marqué par l'épreuve et la détresse. Chers amis auditeurs, pour beaucoup d'entre vous, la vie est devenue si douloureuse que vous ne cessez de pleurer, tant votre chagrin est immense, votre douleur profonde. Dieu lui-même essuiera toutes larmes de leurs yeux. Ce verset offre une espérance merveilleuse. Un jour, Jésus reviendra. En ce jour, il établira toutes choses nouvelles. Et lui-même, en personne, il essuiera toutes les larmes de nos yeux. Dans la vie éternelle, plus aucun individu ne pleurera, car il ne s'y trouvera plus de raison pour pleurer. Toutes nos détresses, tous les malheurs qui, aujourd'hui, nous poussent à bout, un jour, disparaîtront.
Quelle espérance merveilleuse! Elle console et redonne du courage. Mais Robert, nous souviendrons-nous de nos épreuves vécues dans ce monde lorsque nous serons ressuscités et que nous vivrons à jamais avec Dieu? Si tel est le cas, ne risquons-nous pas d'en être attristés?
Voici une question difficile. Et j'aimerais y répondre en apportant quelques remarques. Tout d'abord, souvenons-nous de Jésus. Lorsqu'il est apparu ressuscité à ses disciples, de toute évidence, il se souvenait de la croix puisqu'il leur en a parlé. Jésus, une fois ressuscité, est resté la même personne. Notre identité, d'ailleurs, se construit en grande partie sur nos souvenirs. Lorsque nous ressusciterons d'entre les morts, nous conserverons notre identité. Nous ne deviendrons pas une autre personne. J'en déduis alors que nous nous souviendrons de notre passé, des événements qui nous auront marqués. Toutefois, pour rassurer ceux qui s'inquiètent, craignant que leurs souvenirs puissent gâcher leur jouissance de la vie éternelle et les pousser à pleurer, j'ajoute les remarques suivantes. Le réconfort que nous recevrons de Dieu, du fait que nous vivrons dans sa présence, changera notre regard sur notre passé à un point tel qu'il ne sera plus pour personne une source de tristesse. Ensuite, je pense que nous serons tellement remplis par la joie de notre salut, la joie de vivre dans la présence parfaite de Dieu, que nous ne penserons plus à notre passé. Il ne sera plus pour nous l'objet de chagrin.
Merci Robert, ce sont des remarques effectivement rassurantes. Nous avons déjà appris lors d'une émission précédente que l'agneau mentionné dans le texte lu représente Jésus-Christ. Cependant, vers la fin de cet extrait biblique, nous apprenons que l'agneau est aussi berger.
Oui, voilà un paradoxe surprenant. Dans ce texte rempli d'images tirées de l'Ancien Testament. En fait, ce verset rappelle le psaume 23 qui décrit Dieu comme le berger qui conduit son troupeau vers de verts pâturages et des cours d'eau rafraîchissants.
Et quel est le sens de cette image du bon berger dans le contexte de notre espérance éternelle?
Le bon berger désire protéger ses brebis. Il aspire à leur sécurité. C'est pourquoi le jour où Jésus reviendra pour établir de nouveaux cieux et une nouvelle terre, alors il nous arrachera du danger. Il nous placera sous sa protection. Dès lors, nous vivrons en sécurité avec lui pour toujours. Le bon berger s'assure aussi que ses brebis aient tout ce dont elles ont besoin. Le jour où Jésus reviendra pour établir son royaume, alors nous ne manquerons plus jamais de rien. Nous ne savons pas ce dont nous aurons besoin pour vivre dans la nouvelle création, mais soyons rassurés, Jésus nous comblera généreusement.
Mais que penser de ces paroles? Ils ne connaîtront plus ni la faim, ni la soif, ils ne souffriront plus des ardeurs du soleil, ni d'aucune chaleur brûlante. Faut-il les interpréter littéralement ou s'agit-il là d'images?
Lorsque Jésus reviendra pour établir toute chose nouvelle, la sécheresse ou la famine disparaîtront à jamais.
Quelle merveilleuse nouvelle pour nos amis qui vivent dans un pays où une chaleur écrasante sévit et où la précarité alimentaire existe.
Oui, une fois de plus, nous ne savons pas en quoi la vie consistera dans la nouvelle création. Toutefois, si en ce lieu il faudra nous nourrir, alors nous y trouverons tout en abondance. Mais ces paroles renferment probablement aussi un sens figuratif. Dans l'Ancien Testament, la chaleur et la sécheresse représentent parfois l'épreuve, les temps difficiles, les périodes de la vie où Dieu semble silencieux. Toutefois, le jour où Jésus établira son royaume, à jamais nous vivrons dans sa présence, à jamais nos douleurs et nos angoisses y seront bannies. De même, lorsque la Bible parle de la faim et de la soif, souvent, elle a recours à un sens figuratif, car la faim et la soif peuvent refléter le vide qui se trouve dans le cœur des hommes. Elles expriment leurs aspirations, leurs désirs insatisfaits. Toutefois, quand Jésus fera toute chose nouvelle, nous demeurerons à jamais avec Dieu. Dès lors, nous n'éprouverons plus ce sentiment de manquer de quoi que ce soit, car Dieu nous comblera. Avec lui, nous serons pour toujours épanouis et heureux.
Merci Robert. Vous venez de dépeindre l'espérance et l'héritage merveilleux que Dieu réserve aux siens.
Oui, et mon désir est qu'en comprenant la richesse de notre espérance éternelle, nous puissions endurer toutes les épreuves de cet âge présent et demeurer fermes dans la foi. Un jour, Jésus reviendra. En ce jour merveilleux, il fera pour nous toutes choses nouvelles.
Oui, merci pour ces encouragements. À présent, nous allons passer à notre courte méditation biblique. Nous nous attarderons encore sur les écrits de l'apôtre Jean en parcourant sa première lettre. Mais d'abord, Sandra va nous lire au chapitre 2, les versets 24 à 25, puis Claude nous fera part de ses réflexions.
C'est pourquoi, tenez-vous soigneusement à l'enseignement que vous avez reçu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi unis au Fils et au Père. Et voici ce qu'il vous a promis, la vie éternelle.
Rappelons-le, les croyants à qui l'apôtre Jean écrit ont vécu des moments difficiles qui les ont profondément secoués. Des prétendus enseignants leur avaient annoncé des révélations fausses sur Jésus. Puis ces gens avaient ensuite quitté l'Église. probablement emmenant avec eux une partie des croyants. Ceux qui étaient restés dans l'église étaient plongés dans le doute. Ils devaient se demander qui avait raison et s'ils avaient fait le bon choix. C'est pourquoi l'apôtre Jean exhorte ses croyants à tenir ferme, à rester fidèles à l'enseignement des apôtres. Aujourd'hui, leurs instructions et exhortations sont contenues dans les écrits du Nouveau Testament. Aussi, désormais, nous ne devons plus chercher une doctrine nouvelle, mais examiner tout enseignement nouveau à la lumière des Écritures et faire preuve de discernement. Souvent, les faux enseignants sont captivants. Ils offrent des promesses attrayantes. La réussite est garantie, le bonheur sera parfait, la connaissance mystérieuse. Il est parfois difficile de résister à de telles paroles merveilleuses ou d'en discerner le piège. Toutefois, à travers les versets lus, Jean nous motive à demeurer fermement attachés aux Écritures. Il nous le rappelle. Leur message offre des privilèges, des bénédictions plus merveilleux encore que tous ceux que le monde peut offrir. Mais quels sont ces avantages énoncés par les apôtres? L'apôtre Jean évoque la relation épanouissante que nous pouvons vivre avec Dieu, Père et Fils. Il parle aussi de la promesse de la vie éternelle pour quiconque demeure en Christ. Connaître Dieu? Qu'existe-t-il de mieux dans la vie? Ressusciter pour vivre éternellement? Que pouvons-nous espérer de plus? L'apôtre Paul formule la même pensée. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. Si par la foi nous marchons avec Christ, quelle merveilleuse bénédiction! Vivre avec Jésus, c'est posséder le plus grand des trésors. Mais si nous courons après des doctrines nouvelles, infidèles à l'enseignement des apôtres, alors nous nous éloignons du Fils, du Père, au risque de ne plus jouir de la communion si précieuse qu'il offre. Il peut être difficile de ne pas suivre la foule qui marche dans tous les sens à la recherche de nouveautés. C'est pourquoi, au sein de cette agitation, l'apôtre Jean nous exhorte à demeurer en Christ, à lui être fidèle en écoutant son enseignement donné à travers la Bible. Connaître Christ, jouir d'une communion avec lui, c'est tout ce qui existe de plus merveilleux, aujourd'hui dans ce monde et demain pour l'éternité.
Merci Claude pour ces rappels importants et enrichissants. Nos deux séries se poursuivront la prochaine fois. En attendant de vous retrouver, chers amis, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.